Bonjour, Marco, Comte à rebours. Comte à rebours, vous connaissez sans doute tous les mercredis des histoires, des contes, des légendes. Et aujourd'hui, un conte, et on va partir où, dans quel pays, dans quelle direction? Eh bien, en direction de la Grèce.
Μονάχα σοι παρηγόρες κάθε φαρμακομένο. Μπουζούκι μου διπλό χολοδό, μπουζούκι μου καημένο.
Peut-être comprenez-vous le grec, parce que c'est du grec. Mais même si vous ne le comprenez pas, vous avez sûrement entendu un mot qui dépasse la Grèce, qui est le mot « bouzouki ». Eh oui, il s'agit là d'une ode de Marcos Vamvakaris, qui joue du bouzouki et qui parle de son bouzouki en disant « mon instrument, toi seul, est capable de consoler tous ceux qui sont amers ». Dans les années 20, en Grèce, est né un genre musical un peu comparable au fado au Portugal ou au tango en Argentine et dans les milieux d'immigration turque. On l'appelle parfois le blues grec, c'est le rebetiko, une musique de paria et de marginaux. Aujourd'hui, beaucoup d'années après, cette musique est devenue la musique grecque par excellence. Pour les Jeux Olympiques, c'est le rebetiko qui a été joué. Lorsqu'il s'agit de se réjouir, on joue du rebetiko. Bref, voilà, d'une musique de paria, d'une musique dévalorisée, d'une musique de marginaux, c'est devenu une musique beaucoup plus officielle. Néanmoins, j'ai pris ces musiques qui sont inspirantes pour raconter une petite histoire grecque qui s'appelle Mousko Kampanos, une histoire étrange d'un homme plein d'épices. Et écoutez, parce qu'il y a beaucoup de musique, et puis voilà, on part tout de suite pour la Grèce. En ce temps-là, vivait un roi qui avait une fille. C'était son seul enfant, et il la chérissait, il l'adorait. Lorsqu'il eut 20 ans, il songea à lui trouver un mari. Il lui proposa le fils du vizir. C'était le meilleur parti. Mais la jeune fille refusa. « Je ne veux pas d'époux, père. Ce que je demande de toi, c'est que tu me donnes 3 livres de farine passés par 7 tamis. » et un mélange de toutes les épices qui se trouvent sur terre. Tu m'enfermeras à l'église, et avec tous tes sujets de plus de 7 ans, tu réciteras des prières et tu rendras des grâces. Et au bout de 40 jours, tu me laisseras sortir. » Le roi leva les bras au ciel, mais se plia à la volonté de sa fille. Il l'amena à l'église, lui laissa 3 livres de farine passés par 7 tamis. Une poudre faite de toutes sortes d'épices, puis il ferma la porte à double tour et remit les clés entre les mains du prieur. Et ravalant ses larmes, avec tous ses sujets de plus de 7 ans, il tomba à genoux et pria longuement. La fille s'installa devant l'autel, mélangeant la farine aux épices, la trempant d'eau bénite et l'arrosant de larmes, elle se mit à la pétrir. Et, tout en pétrissant, elle récitait ses prières. Bientôt, elle avait fait un pain. Un assez gros pain en forme de bébé. « Seigneur, pria-t-elle. « Donne-lui une âme !» Sans doute Dieu l'entendit-elle. Il envoya un ange, et l'ange donna à la pâte le souffle de la vie. Le bébé était un garçon, et il grandissait si vite qu'au bout d'une semaine, il se tenait déjà debout. Et il sentait si bon, un mélange des meilleurs muscs et parfums de la terre, que sa mère le nomma Mosco Campanos. Le roi, pendant ce temps, avait sombré dans l'affliction. Il s'en voulait d'avoir cédé à sa fille. Les 40 jours prenaient fin et il craignait de la trouver morte dans l'église. Une nouvelle fois, il réunit ses sujets, âgés de plus de 7 ans, et répandant force larmes, rendit grâce au ciel et pria longuement. Puis, il ouvrit lui-même la porte de l'église. Et il découvrit alors que sa fille avait un fils. Un garçon qu'elle tenait par la main et qui, par la taille, devait avoir 7 ans. Tout le monde tomba à genoux devant ce miracle. Mosco Campanos franchit le seuil de l'église. Il marcha parmi les gens et sa senteur était si enivrante que tous se sentirent défaillir. La fille retourna au palais avec son père et l'enfant. La famille était inséparable et chaque jour qui s'écoulait leur apportait sa moisson de bonheur. Dans le pays désormais, on ne parlait plus que de Mosco Campanos, de son parfum si suave, de sa beauté sans pareil. Sa renommée eut vite fait de franchir les frontières et parvint ainsi dans une autre contrée. Le roi de cette contrée avait lui aussi une fille unique et il la chérissait. Mais elle était gâtée et envieuse. Dès qu'elle entendit parler du miraculeux enfant, elle déclara à son père « Tout ce que je demande de toi, c'est Mosco Campanos. Si tu m'aimes, tu trouveras un moyen de me le donner. » Le roi leva les bras au ciel consterné. Comment faire pour contenter sa fille? Il se tracassait jour et nuit quand, enfin, un vieil homme vint le trouver. « Je sais ce qui te chagrine, mon roi. C'est moi qui vais te l'amener, ce fameux Mosco Campanos. Tout ce qu'il me faut, c'est un bateau chargé de riches vaisselles et de fines verreries. » Une semaine plus tard, un beau navire prenait le large. La traversée fut longue pour gagner par la mer le pays de Mosco Campanos. Et un matin, on le vit accosté, empli à ras-bord de précieuses marchandises. Στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Un bateau riche de milliers de marchandises précieuses est arrivé. La nouvelle se répandit dans la ville et les clients se mirent à affluer. Et le vieil homme déguisé en riche marchand, les accueillit. Pourtant, il guettait surtout l'arrivée du garçon de Mosco Campanos et au bout de quelques jours, en effet, celui-ci vint à passer. Attiré par l'éclat des faïences, des lustres, des rayons du cristal qui tintaient, il voulut monter à bord et choisir quelque chose à son tour. On le reçut avec des courbettes, des révérences. On le laissa s'aventurer parmi les bancs chargés de coupes ouvragées, de vaisselle fleurie. Mais les marins, pendant ce temps, en toute discrétion, levaient l'ancre, larguaient les amarres. Et l'instant d'après, le navire était au large, emportant le jeune Mosco Campanos. En apprenant que son fils s'était fait enlever, la pauvre mère tomba évanouie. Et dès lors, elle pleurait jour et nuit et son père était au désespoir. Il pensait qu'elle finirait par mourir de chagrin. Mais un matin, elle se leva, les yeux secs. « Je vais chercher mon fils, » déclara-t-elle. « Mais où, ma fille? Tu ne sais même pas où on l'a amené. J'irai partout et je finirai par le trouver. » « Attends, je vais te donner une escorte !»« Non, j'irai seul. Je n'ai besoin de personne. » Elle se rendit chez le forgeron et demanda qu'il lui fabrique 7 paires de souliers en fer. Dès que l'artisan l'avertit que sa commande était prête, elle passa chez lui, chaussa la première paire et sans même faire ses adieux au palais, se mit en route. Elle marcha pendant des jours, pendant des semaines, et à la fin, ses souliers de fer s'étaient usés. Mais elle était arrivée, où ? Au bout de l'horizon, chez la mère de la lune. « Tiens, s'étonna la mère de la lune, personne avant toi ne s'était aventuré aussi loin. Mais sois la bienvenue, ma fille, que viens-tu faire chez nous ? Je cherche mon enfant. » J'ai marché jusqu'ici pour demander à la lune si elle l'a vu par hasard dans sa course. La lune, oulala, sauve-toi car elle ne va pas tarder à rentrer se coucher. Et si elle te découvre, elle va te dévorer, dit la mère pleine de compassion. Mais déjà, la lune se montrait au loin. Ça sent la chair fraîche, rugit-elle. Qui est l'être humain qui est caché ici?
Ce n'est que moi, dit sa mère. Tu n'as qu'à me manger si le cœur t'en dit.
Elle parvint à radoucir la lune et lui conta les malheurs de l'infortuné. « Je n'ai pas vu son fils, » déclara la lune. « Qu'elle aille plutôt chez mon frère, le soleil. » Avant de chasser la jeune fille, la lune lui donna une petite noix. Et la fille du roi reprit sa route. Elle marcha à nouveau pendant des jours, des semaines. Et à la fin, elle avait usé sa 2e paire de souliers de fer. Mais elle était arrivée à l'autre bout de l'horizon, chez la mère du soleil. Et tout comme la mère de la lune, cette dernière intercéda auprès de son fils et lui demanda d'aider la malheureuse.
« Je n'ai pas vu son enfant, » déclara à son tour le soleil.
« Qu'elle aille plutôt chez le zéphyr. » Mais avant de la chasser, il lui donna une petite amende. Elle se remit en route, marcha jusqu'à en user sa 3e paire de souliers.
« Je n'ai pas vu son enfant, » dit à son tour le zéphyr. « Qu'elle aille demander à mon frère, le boré. »
Et la jeune mère, à la jeune mère, il donna une noisette. Elle repartit. Et à nouveau marcha, longtemps, si longtemps cette fois, durant des semaines, des mois, qu'elle en usa tous les souliers de fer qui lui restaient.
Quand elle arriva chez le bourré, son ultime espoir était au bout de la dernière paire.
J'ai vu...
Quand elle arriva chez le bourré, son ultime espoir, elle était au bout de la dernière paire.
« J'ai vu Musco Campanos, » dit alors le bourré. « Il vit chez la fille du roi qu'il a fait enlever, et bientôt il va l'épouser. »
Il lui montra la route, mais avant de la chasser, lui donna un petit tapis. « Si tu n'arrives pas à reprendre ton fils, lui dit-il, va l'attendre chez le forgeron où il ira ferrer ses souliers. Dès que tu le verras, tu étaleras le tapis, tu t'assieras dessus avec lui et moi, je soufflerai si fort qu'en un clin d'œil, vous serez de retour chez ton père. » La jeune mère le remercia et suivit la direction qu'il lui avait indiquée. Elle marchait pieds nus désormais, mais comme elle allait vite, elle avait repris espoir et la joie la grisait. Un jour, enfin, elle aperçut la ville au loin et le palais où vivait son fils. Elle était brisée de fatigue, ses pieds étaient en sang, ses vêtements déchirés. Rassemblant ses dernières forces, elle marcha jusqu'au palais. Mais comment faire pour entrer dans le palais? Comment faire pour revoir son fils? C'est alors qu'elle se souvint des trois fruits qu'elle avait reçus au cours de sa quête. À quoi pouvait-il bien servir? Elle sortit de sa poche la noix, brisa la coquille et vit paraître une petite poule d'or suivie de trois poussins. Elle cassa l'amande et découvrit trois quenouilles d'or. Puis elle ouvrit la noisette et il y avait un fil d'or à l'intérieur et il était si long qu'elle avait beau tirer, le monter un fuseau autour des trois quenouilles, elle n'en voyait pas la fin. Pendant ce temps, les servantes de la princesse s'étaient mises à la fenêtre. Et tout à coup, baissant la tête, elles remarquèrent cette pauvresse sous les murs du palais. Entre ses mains voletaient trois éblouissants fuseaux et à ses pieds se bousculaient quatre merveilleux petits oiseaux. Elles coururent l'annoncer à la fille du roi, leur maîtresse. « Comment cela ?» s'étonna cette dernière. « Une mendiante avec des oiseaux d'or, des quenouilles de fil d'or ?»« Mais je les veux ! Dites-lui de me les vendre !»« La fille du roi t'achète tes trésors !» crièrent les jeunes filles par la fenêtre. « Combien ça coûte ?» La mère de Musco Campanos, en les entendant, comprit alors pourquoi la lune, le soleil et le zéphyr lui avaient donné les trois fruits magiques.
« Dites à votre maîtresse qu'ils ne valent pas de l'argent. Ils valent un instant qu'elle me laissera passer avec son fiancé. »
Mais la fille du roi, en apprenant le prix, se mit en colère. Elle était si jalouse qu'elle refusa d'en entendre parler. « Quelle impudence ! Chassez-moi cette femme d'ici !»
La jeune mère, déçue, se leva. Elle prit ses quenouilles, ses poussins et s'apprêtait à repartir quand elle se souvint des conseils du bourré. Elle s'en fut donc chez le forgeron. À l'artisan, elle conta ses malheurs. Et aussitôt, il la prit en pitié. « Reste ici, je vais te cacher sous l'établi. Comme ça, quand ton fils viendra chercher les souliers qu'il m'a demandé de lui ferrer, tu pourras le voir et enfin tu auras un instant avec lui. C'est tout ce que je demande, » s'écria la jeune femme. « Tiens, brave homme, voilà ce qu'il vaut cet instant que tu me donnes. » Elle sortit de sa poche les quatre merveilleux petits oiseaux, les trois étincelants fuseaux et les mit entre les mains du forgeron ébloui. Pendant des jours, elle resta cachée sous l'établi. Et un matin, elle entendit des chevaux qui approchaient. Elle entendit le martèlement des sabots. «
C'est lui !»
chuchota le forgeron. Il arrive avec sa suite.
Le cœur battant, elle attendit, sans bouger. Et tout à coup, elle vit son fils paraître. Comme il était beau, et comme il avait grandi, et sa senteur était encore plus enivrante, si enivrante qu'elle se sentit défaillir. Vite, vite, elle étala le petit tapis et sortit de sa cachette. Mousko Campanos tourna la tête et aussitôt reconnut sa mère, et à l'instant même, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle l'attira à elle et l'assit sur le tapis. Au même moment, une rafale de vent balaya la terre, une rafale prodigieuse qui soulevait un immense nuage de poussière. Les hommes et les bêtes, plaqués au sol aveuglés, ne virent pas le petit tapis qui passait au ras des têtes, qui s'élevait en portant la mère et son fils pour monter jusqu'au ciel. Un moment plus tard, la fille était à nouveau auprès de son père. Le bourré avait tenu sa promesse. La famille était enfin réunie. Ils tombèrent à genoux, tous les trois, et longuement récitèrent leurs prières et rendirent grâce à Dieu. Puis, ce fut la fête au palais pour célébrer les retrouvailles. La fête la plus joyeuse, la plus mémorable qu'on ait vue au palais. Et depuis ce jour, le roi, la jeune mère et son fils vécurent inséparables. Chaque jour qui passait leur apportait sa moisson de bonheur.
Στο πρωί με πρέζα στέκω στη ζωή κι όλο τον κόσμο κατακτώ την άσπρη σκόνη σαν ρούχο όλος ο κόσμος είναι θύμα μου σαν έχω πρέζα και ρουφάω κι
Voilà, c'était Conte à rebours, conte d'Asie mineure aujourd'hui, recueilli par Calliope Moussaïou Bouyoukou et musique de Rebetiko, la musique grecque. Bien, à la semaine prochaine.
Ρέθα εφραθείς κι όλα πια στον κόσμο ρούν.